Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Clément Daté. €1 000 d'amende, dont la moitié avec sursis. Voilà la peine maximale à laquelle risque d'être condamné Emmanuel Giboulot. Ce vigneron bourguignon comparaissait la semaine dernière pour avoir refusé de traiter préventivement ses vignes contre la cicadelle, insecte porteur d'une maladie dévastatrice, la flavescence dorée. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril. Pour les partisans de cet agriculteur, le réquisitoire est déjà une victoire puisqu'il encourait jusqu'à 6 années de prison. Or, cette affaire est doublement intéressante. D'abord en ce qu'elle propose et qu'elle oppose deux conceptions du principe de précaution. Risque de pollution aux pesticides contre risque de propagation d'une maladie. Ensuite, parce qu'elle a suscité, à savoir un fort courant de sympathie à l'égard du vigneron récalcitrant, devenu pour un temps le symbole de la résistance citoyenne face à l'industrie agrochimique. Alors, cette affaire renvoie à d'autres mobilisations qui s'inscrivent dans le même registre, c'est-à-dire, pour simplifier, un affrontement entre défenseurs de l'environnement et promoteurs de l'activité économique, que ce soit à propos des OGM, des antennes relais, des gaz de schiste, de nouveaux aéroports, pour ne citer que les exemples les plus médiatisés. Alors justement, quelle est la responsabilité des médias sur ces sujets? En font-ils trop? Ce qui supposerait qu'ils sont contaminés par les idées écologistes? Ou bien pas assez, ce qui serait la preuve de leur allégeance aux forces économiques? La responsabilité est aussi pas seulement médiatique, mais peut-être avant tout politique. Face à des risques possibles, mais non avérés, quelle est la meilleure décision à prendre? La démocratie d'opinion doit-elle primer sur l'expertise scientifique ou inversement? OGM, gaz de schiste, pesticides, etc. Sommes-nous trop frileux ou pas assez prudents? C'est notre sujet du jour. Et ils seront deux ce soir pour en discuter. Jean de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur agronome, membre de l'Académie des technologies. Vous avez créé l'école Pasteur CNAM de santé publique. Vous venez de publier chez Robert Laffont « Ils ont perdu la raison ». Pourquoi les gouvernants prennent les mauvaises décisions s'agissant alors du diesel, du nucléaire, des pesticides, de la santé, des OGM, de l'énergie, des sciences. De la science, c'est ce que l'on peut lire sur la couverture de votre ouvrage. Pourquoi les gouvernants prennent les mauvaises décisions? Bien notamment, c'est ce que vous dites dans votre livre, parce qu'ils sont soumis à la double pression des médias et des écolos. Alors imaginez quand vous avez un journaliste écolo face à vous, qu'est-ce que ça peut donner? C'est ce que nous allons voir ce soir, encore que je ne sais pas si c'est une définition qui peut vous convenir. Hervé Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste écolo, oui.
Journaliste
engagé, en tout cas.
Sur le terme d'engagé me dérange, mais je pense que le journalisme ne peut pas prétendre raconter le monde et proposer des interprétations s'il n'a pas un point de vue. Et de la même manière que la grande majorité des journalistes dans les médias dominants considèrent que la croissance économique et le système capitaliste et productiviste sont une bonne chose par principe, je pense qu'on peut adopter un autre point de vue qui est de dire que la question écologique à notre époque est absolument essentielle. Et à partir de ça, on fait du bon journalisme, c'est-à-dire on cherche à vérifier ces informations, à donner des points de vue contradictoires, à enquêter factuellement et précisément.
Et on ne peut pas dire que vous manquez de points de vue dans votre dernier livre publié au Seuil, Notre-Dame des Landes, dans lequel vous racontez ce que vous considérez être presque la mère de toutes les batailles politiques du moment, en tout cas un combat politique extrêmement important. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Notre-Dame des Landes, donc, c'est publié au Seuil. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment, alors c'était déjà au Seuil il y a une dizaine d'années, la guerre secrète des OGM. Alors avec vous deux, j'aimerais qu'on démarre la discussion sur ce fait divers que j'ai évoqué dans le lancement de l'émission. Ce vigneron donc qui a désobéi au préfet de son département, qui a refusé de traiter sa vigne en considérant que les pesticides qu'on lui demandait d'utiliser allaient polluer sa vigne, alors qu'il y avait un risque peut-être de voir une maladie se propager dans les vignes alentours. Est-ce que vous y voyez, Jean de Kervas-Doué, un acte de résistance exemplaire de la part de ce vigneron ou bien un acte irresponsable?
Je n'utiliserai pas ces termes-là. Je pense qu'il est plus irresponsable qu'exemplaire. D'ailleurs, vous avez utilisé un terme vous-même en parlant de pollution aux pesticides, qui est un terme inapproprié. C'est comme si vous disiez que, il se trouve que je suis asthmatique et en ce moment je prends des médicaments, que je serais pollué aux médicaments. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a d'agronomie contemporaine possible sans utilisation des pesticides. Alors, le sujet que vous évoquez est un sujet très intéressant parce que ça nous ramène à la question des vaccins. En fait, si on est protégé des vaccins, c'est parce que tout le monde est vacciné. Alors, c'est des situations de théorie des jeux qu'on appelle le jeu ou le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'il y a des situations où la somme des intérêts individuels n'est pas le même que l'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'on a collectivement intérêt à ce que les autres soient vaccinés, mais dans un pays où tout le monde est vacciné, on n'a pas intérêt à être vacciné parce qu'il y a des risques très, 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 très minimes, enfin, ils ne sont pas nuls. Et donc, c'est pour ça que la vaccination est obligatoire. Et d'ailleurs, avec ce même titre de raisonnement aujourd'hui, la vaccination recule.
Donc, ce vigneron-là, il avait raison individuellement, mais il n'avait pas. Il avait tort collectivement, c'est ça ?
Il a sûrement tort collectivement, parce que malheureusement, il en est des virus et des bactéries des plantes comme des virus et des bactéries des hommes. Ils se propagent et on ne peut pas faire l'hypothèse qu'une parcelle qui est de quelques hectares, parce qu'en Bourgogne, c'est en général tout petit, on puisse l'isoler, elle est autour d'autres parcelles. Et donc, si lui-même protège ces virus, eh bien, ils vont diffuser dans d'autres cultures.
Alors, j'imagine que c'est une affaire que vous avez traitée sur votre site, parce que j'ai oublié de citer votre site, Hervé Kempf, reporter.net, le quotidien de l'écologie, dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous étiez déjà très actif sur ce site lorsque vous étiez journaliste au Monde, mais vous avez quitté le journal Le Monde. Là aussi, j'ai oublié de le mentionner, vous voyez, dans le démarrage de la discussion sur un conflit, justement à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous considériez que votre journal vous empêchait de traiter cette actualité comme vous le souhaitiez. Donc, pour revenir à cette histoire du vigneron, vous, quel serait votre point de vue sur ce cas ?
Incidemment, ce n'est pas parce que je considérais qu'il m'empêchait de le faire, c'est parce qu'il m'empêchait de le faire. Mais bon, c'est une anecdote passée.
Parce que du côté du Monde, eux disent, mais non, on ne l'empêchait pas.
Oui, enfin, il y a des faits.
Ce n'est pas le débat du soir.
Voilà, pas du tout. L'affaire de M. Emmanuel Giboulot est très intéressante parce que c'est aussi une question de système agricole. C'est-à-dire que ce viticulteur pratique une méthode d'agriculture biologique qu'on appelle la biodynamie depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, il y a pas mal de vignes en Bourgogne qui commencent peut-être une ou deux décennies à se développer en agriculture biologique. Et il avait un certain nombre d'arguments qui consistaient à dire notamment que la cicadelle n'était pas présente ni sur ses parcelles ni sur celles des voisines. C'était en fait du département voisin. Et par ailleurs, que si l'on appliquait le pesticide dont il était recommandé l'achat, cela pourrait tuer toutes les autres bêtes, puisque ce pesticide aurait effectivement tué apparemment la cicadelle. Je dis apparemment parce que, comme toujours, quand on rentre dans le détail, ça devient un peu technique, ça devient compliqué, les choses ne sont pas blanches-noires, mais ça aurait peut-être eu un effet certain sur ce parasite, mais ça aurait aussi, selon lui, si j'ai bien compris son argumentation, aussi détruit toutes les autres pesticides et toutes les autres animaux qui ne sont pas forcément des nuisibles. Et dans cette approche d'agriculture, et il faut signaler que c'est un vigneron qui marche très bien, qui fait apparemment du bon vin et surtout une exploitation qui est tout à fait économiquement et en termes de qualité valable, disait non, je prends une image un petit peu exagérée, on prend un marteau pour détruire une mouche et on va détruire beaucoup d'autres choses à côté de la mouche. Pour autant d'ailleurs qu'on puisse attraper la mouche. Et donc là, on a vraiment une confrontation entre deux systèmes qui se retrouvent d'ailleurs dans d'autres cas. Monsieur Jean de Kervas-Doué citait à très juste titre la question du vaccin qui est intéressante parce qu'il y a d'autres cas de vaccins en matière agricole. Vous avez par exemple, il y a quelques années, contre le FCO, contre la fièvre catarrhale ovine, un très grand nombre d'éleveurs se sont élevés contre une vaccination obligatoire qu'ils considéraient être mal appropriée. Quand on rentrait dans le dossier technique, on se rendait compte qu'effectivement, ce n'était pas aussi simple pour différentes raisons. Il y a en ce moment un problème avec la brucellose pour les bouquetins du massif du Bagy en Haute-Savoie.
Et je veux dire par là
que dans beaucoup de cas, c'est des situations à la fois techniquement très difficiles, scientifiquement qui ne sont pas toutes blanches et toutes noires, et que dans le cas de cet agriculteur, et après tout c'est de là qu'on parle, il y a vraiment l'opposition entre deux systèmes de traitement, deux systèmes d'agriculture, deux systèmes de façon de concevoir la bonne alimentation et un respect de l'environnement.
Une opposition entre deux systèmes, une opposition aussi entre deux risques, ce qui complique la décision. C'est-à-dire quand on doit peser un risque par rapport à l'autre, quelle est la bonne façon de prendre la décision, parce que
je crois qu'on est d'accord. Il n'y a pas de risque de pesticides, c'est-à-dire encore une fois...
Il y a un risque de destruction
d'un écosystème, qui n'est pas la même chose. Si vous voulez, il n'y a pas de risque pour les consommateurs de vin. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai repris quand vous avez parlé de pollution aux pesticides. C'est-à-dire que les plantes produisent tous des toxines et nous consommons dans une année beaucoup, beaucoup moins de traces de produits chimiques qui sont infimes que de toxines naturelles. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout confondre. Donc là, on parle de l'évolution d'un écosystème. Moi, je ne connais pas suffisamment bien l'écosystème pour en parler intelligemment. Donc, je m'arrêterai là. Mais effectivement, on peut avoir un argument qui est de dire qu'un pesticide, en tuant une famille d'insectes, pourrait en tuer d'autres. Ça, c'est tout à fait. Et que ces insectes pourraient jouer un rôle sur, etc. Mais néanmoins, nous sommes dans le domaine des maladies infectieuses, qu'il s'agisse de maladies des plantes ou de maladies des hommes, en prenant l'exemple des bouquetins, ou des animaux, en prenant l'exemple des bouquetins, et qu'il est là, si vous voulez, clairement, le progrès a été, et je vais en dire un mot, si vous me permettez, pour les hommes, a été de rendre la vaccination obligatoire. Parce que pour la première fois, en 2012, l'espérance de vie des femmes en France a baissé du fait de l'application du principe de précaution. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est assez simple. C'est-à-dire qu'au moment du débat sur la grippe H1N1, on a débattu de l'adjuvant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et on a dit qu'on allait réserver l'adjuvant aux femmes enceintes et aux très très jeunes bébés. Donc, tout le monde a compris que le vaccin avec adjuvant était dangereux. Comme tout le monde a compris que c'était le cas, il y a eu 1 million de femmes de moins qui se sont faites vacciner et moins les hommes d'ailleurs, curieusement, pendant la campagne 2011 et 2012. Et comme il y a eu une grave épidémie de grippe, les gens sont morts.
Est-ce que vous y voyez là un déficit d'information sur ces questions ? Parce que vous en prenez quand même assez régulièrement dans votre livre, aux médias. Vous dites, les journalistes ont un problème de culture scientifique et en plus, ils sont tellement infiltrés par les idées écologistes qu'ils en viennent à manipuler l'opinion.
Oui, alors ça c'était...
Ce ne sont pas des mots que j'invente.
Je ne le dis pas comme ça, mais...
Non,
pas tout à fait, mais peu importe. Ce qui est exact, c'est que malheureusement, nous sommes dans un pays où la culture scientifique est assez limitée et que, par exemple, au moment du drame de Fukushima, parce que c'est un drame, quand le nuage est arrivé aux États-Unis, personne dans la presse n'a dit, écoutez, un mètre cube d'air, là, celui dans lequel, les pièces dans lesquelles nous sommes, ou nos auditeurs, dans leur voiture ou ailleurs, produit 1000 becquerels par seconde et que le nuage, quand il était aux États-Unis avant de venir en Europe, il ne produisait que 0,2. Donc becquerel, donc c'était même plus la peine de s'en
Tchernobyl,
occuper.
Vous voulez dire.
Non, Fukushima. Quand il est passé du Japon aux États-Unis, en fait, il y avait pratiquement plus d'irradiation. Et donc, il n'y a pas un moment où on explique que nous sommes radioactifs, vous comme moi. On produit 1000 becquerels pour 10 kilos, donc moi c'est plutôt 8000 par seconde, et que la radioactivité est naturelle. Donc vous voyez que souvent on confond. En fait, mon argument, il est très très simple, c'est que il y a des domaines des valeurs. Politique, il y a des domaines de défense de certains types d'agriculture. Là, je respecte les uns comme les autres. Et puis, il y a des faits scientifiques. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à vouloir confondre le vrai, le juste et l'équitable. Ce qui est vrai est vrai. Et ce qui est juste et équitable n'est pas nécessairement vrai.
Hervé Kempf.
Oui, alors on part déjà dans beaucoup de directions. Il y a quand même une phrase que les médias soient infiltrés par les idées écologistes, je dois avouer, me fait sourire.
Alors je vous cite l'indigence scientifique et la pénétration du mouvement écologiste dans la presse française.
Oui. Bah, écoutez, voilà.
Ce qui n'était pas très loin de ce que je disais.
Le journal du soir que vous avez cité, qui appartient à messieurs Berger, Niel et Pigas,
qui s'appelle Le Monde,
réduit pour deux fois de suite absolument son service environnement. Dans les autres médias, il y a très peu de journalistes environnement. En revanche, les journalistes, les services d'économie sont très largement présents. Et si par exemple... Enfin voilà, donc ça c'est le premier point. Hélas, non, la présence écologiste, et non pas écologiste, la présence d'un journalisme environnemental, ce qui est quand même très différent, hein, et malheureusement peu présente dans les médias. Ça a progressé, mais c'est j'allais dire une bataille de toujours. Après, moi, je veux bien qu'on parle de Fukushima, mais ce qui me semble, c'est pas tellement le nuage qui serait arrivé aux États-Unis. Effectivement, vous avez tout à fait raison, s'il y a une radioactivité décelable par les courants atmosphériques entre le Japon et les États-Unis, ce que je dois avouer, j'ignore. C'est pas là-dessus que l'attention s'est focalisée sur Fukushima et continue à se focaliser sur Fukushima. La question se focalise sur l'effet que cela a eu localement, que ça continue à avoir, parce qu'il y a toujours des taux de radioactivité importants, que ça n'est pas, s'il y a une radioactivité naturelle, l'activité par exemple de l'élément césium-137 n'est pas, ou du plutonium dans un autre, n'est pas une activité naturelle. Et par ailleurs, il y a toujours une zone de près de 2000 km² qui est interdite à la population humaine. Il y a toujours un très grand risque par rapport à cette centrale, notamment par rapport à des piscines qui contiennent de l'eau fortement contaminée. On est toujours dans une situation extrêmement délicate. Et je crois que c'est là-dessus qu'on peut apprécier les choses et le danger.
Jean de Carvazoué, sur cette question-là, vous avez le sentiment, ou voire la certitude, qu'on surestime le risque en termes sanitaires ?
Oui, alors il se trouve que quand est tombé le mur de Berlin, l'Union européenne a financé des études pour aller étudier, outre Tchernobyl, une autre catastrophe en Union soviétique, puisque M. Beria, qui était le sympathique ministre de l'Intérieur de Staline, avait récupéré tout le monde et les avait placés à Kamine-Soralski, de l'autre côté de l'Oural, enfin tout près d'Ekaterinbourg. Alors il se trouve qu'il y a eu deux catastrophes nucléaires, c'est-à-dire il y a eu des fûts radioactifs qui ont explosé. Et donc ça c'était en 54 et en 55, et donc en 91, mon équipe de l'époque avec le CEA et l'Institut Curie, nous sommes allés voir quelles étaient les conséquences, parce que les soviétiques avaient déplacé la ville sur la carte, mais les gens étaient restés sur place. Donc voilà. Et donc on a passé un an à regarder ça, et à ma très très grande surprise, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence, vraiment, il y avait des gens qui étaient morts au moment de la catastrophe, mais qu'à 30 km de là, une longue irradiation n'avait pas d'effet ni de création de monstres, ce qu'on appelle la tératogenèse, ni de maladies radio-induites, et notamment les leucémies. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, aussi bien pour Fukushima que pour Tchernobyl, je conseillerais à nos auditeurs de ne pas me croire, mais d'aller voir le site de l'Organisation mondiale de la santé. Et le site de l'Organisation mondiale de la santé pour Tchernobyl dit que le nombre de personnes qui sont mortes, que l'on peut nommer, y compris les liquidateurs, y compris les cancers de la thyroïde, c'est moins de 80. Et quant à Fukushima, comme vous le savez, pour l'instant, personne n'est mort d'irradiation. Il y a 20 000 personnes qui ont été noyées. Il y a 33 personnes qui sont mortes d'une explosion. Et il y a une trentaine de personnes qui ont été un peu plus irradiées que la normale. Donc tout ça, c'est un drame, mais c'est beaucoup moins que les drames du charbon, par exemple, puisque rien qu'en Chine, il y a 2 ou 3 000 personnes qui meurent chaque année dans les mines de charbon, et la pollution atmosphérique en Chine est terrible.
Alors, pour reprendre la formulation de notre question ce soir, est-ce que nous sommes trop frileux ou pas assez prudents ? Vous seriez plutôt du côté des trop frileux, Hervé Kempf ?
C'est pas une question d'être frileux ou de pas frileux, c'est simplement, est-ce qu'on a des conduites et des choix sociaux qui nous mettent en danger ? Je vais prendre un exemple très exagéré, vous me pardonnerez, mais on est dans le centenaire de la guerre de 14. Est-ce que des gens, et on citait Jaurès, vous citez Jaurès à l'entrée de votre livre, qui disait « il faut éviter la paix dans une ambiance générale », et peut-être qu'on lui reprochait à l'époque d'être frileux. Alors, la comparaison est très exagérée, mais vous me permettez pour
voilà, inappropriée, qu'on se comprenne.
Surtout. Elle n'est pas tout à fait inappropriée, parce que moi, je ne suis pas frileux par rapport à la question du nucléaire. Je me dis simplement, quand j'entends le directeur de l'Institut de la Recherche et de la Sécurité nucléaire, Jacques Repoussard, dire « Après Fukushima, maintenant la question d'un accident nucléaire en France n'est plus inenvisageable et elle devient une vraie préoccupation », quand j'entends de manière répétée M. Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit « On peut avoir une panne récurrente sur les centrales nucléaires françaises » et il y a eu un plan national qui vient d'être publié par le SGDN, le secrétariat général à la Défense nationale et à la sécurité intérieure sur ce qu'il faudrait faire en cas d'accident nucléaire. Je ne suis pas frileux, je me dis « Il faut prendre toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y a pas d'un accident, parce que nous avons deux expériences, on cite celle de Tchernobyl et de Fukushima. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et ayant eu la chance en tant que journaliste d'aller au nord de l'Ukraine et dans cette région de Biélorussie qui a été la plus affectée par les retombées radioactives et où la vie est stérilisée, c'est-à-dire qu'il y a des zones interdites, de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et il en va de même pour cette région au nord du Fukushima. Et moi, je me dis, on peut bien sûr, et ce que vous avez dit, j'ai pas dit que c'est beaucoup de choses sur lesquelles on peut être d'accord, mais en revanche, le risque d'une élévation importante de radioactivité en cas d'accident impliquerait qu'il y aurait l'équivalent d'un département ou d'un demi-département français interdit à l'habitation humaine. Et ça, ça n'est pas être frileux que dire « ça n'est pas acceptable », c'est de dire « non ». Il ne faut pas que ça arrive.
Alors, comme je ne voudrais pas qu'on passe toute l'émission, parce que le temps passe vite, hein, même si on a une quarantaine de minutes sur Fukushima, je voudrais qu'on aille sur le terrain aujourd'hui de la décision politique, puisque finalement, la question qu'on pose ce soir, elle est éminemment politique. Comment est-ce qu'on prend des décisions, surtout dans une société aujourd'hui où le débat scientifique est de plus en plus démocratisé? On l'a bien vu justement avec l'histoire de ce vigneron. À son procès, il y avait 500 personnes qui étaient présentes. Il y a eu une pétition en sa faveur qui aurait réuni plus de 500 000 signatures, ce qui est tout de même énorme. Et avant de poursuivre sur ce sujet, je voudrais vous faire écouter le fondateur d'une association qui s'appelle Science et Démocratie, s'appelle Philippe Bourlitiaud, et il essaie justement, à travers son association, d'organiser des débats pour donner un maximum d'informations aux citoyens, car il estime que les citoyens n'ont pas suffisamment les moyens de se prononcer sur les grands enjeux scientifiques. Écoutez ce qu'il en dit à Mélanie Chalandon.
Je défends la nécessité du dialogue et de la participation des citoyens sur ces questions comme les OGM, les nanos, etc., qui sont des questions qui, selon moi, dépassent les clivages politiques et qui nécessitent justement un travail collectif orienté vers l'intérêt général plus que des intérêts particuliers, par exemple. Quand c'est les parties prenantes qui participent au débat, ils défendent chacune leurs intérêts, alors que des citoyens sont plus à même, selon moi, de participer à concevoir l'intérêt général. Avec l'arrivée en 2009 du débat public sur les nanos, mais aussi celui sur la bioéthique, avec les états généraux de la bioéthique, il y a eu également le Grenelle des ondes. C'est cette année-là qu'on a eu un déclic et qu'on s'est dit qu'il faut absolument aller chercher la décision, le lien avec la décision publique. Et je pense que c'était intéressant aussi pour les internautes, parce que c'est une motivation supplémentaire pour eux pour participer aux discussions. Voilà. Et parallèlement à ça, on a effectivement un objectif qui est d'exprimer un regard critique sur les processus participatifs pour faire en sorte qu'ils évoluent.
Voilà, Philippe Bourlitiaud de l'association Science et Démocratie. Jean de Kervas-Doué, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est toujours une bonne chose que les citoyens participent au débat sur des questions d'ordre scientifique?
La réponse est oui, bien entendu, mais à condition qu'ils ne soient pas manipulés. Dans le cas de l'exemple qui a été pris, le débat sur les nanotechnologies, comme vous le savez, les réunions n'ont pas pu se tenir. Il se trouve qu'on m'a proposé...
Mais ça veut dire quoi, à condition qu'ils ne soient pas manipulés? C'est-à-dire à condition qu'il n'ait pas un avis contraire à l'avis qui sera celui des scientifiques?
Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que dans le cas de ces réunions, il y avait des gens qui ont empêché que les réunions se tiennent, en défendant une position, si vous voulez. Le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on confond, encore une fois, l'ordre de la vérité et l'ordre du bien et du mal et du juste. Et donc, dès qu'on parle OGM, on vous dit tout de suite Monsanto. Et moi qui suis agro et qui suis intéressé par la génétique, moi, je pense OGM, je ne pense pas Monsanto. Je pense nouvelles technologies de développement des plantes et nouvelles technologies en médecine. Par exemple, tous les diabétiques aujourd'hui sont traités par un OGM.
La question du bon et du juste ne devrait pas entrer en ligne de compte?
Si, mais après, c'est... C'est-à-dire, il ne faut pas confondre. Si vous voulez, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous voyez le Parlement prendre des positions historiques avec les lois mémorielles. Vous voyez le Parlement prendre des lois scientifiques avec le bisphénol A et la proposition de loi sur les ondes. Alors que l'Académie de médecine a fait un très très bon rapport sur le bisphénol en disant qu'il y avait des inconvénients, mais que ces inconvénients étaient minimes. Mais surtout que les produits alternatifs n'étaient pas meilleurs. C'est-à-dire que si vous êtes toujours obligé, y compris d'ailleurs, ça ramène au débat sur le nucléaire, comme on n'est pas dans un monde idéal, de faire des études co-efficacité et de se placer dans des situations où on ne regarde pas que les inconvénients, mais on pourrait aussi regarder les avantages.
Hervé Kempf, dans votre livre consacré au projet d'aéroport et au combat contre la création de cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes, vous avez notamment cette phrase « Quand il y a débat public, il est conduit dans l'idée que se confronte un maître d'ouvrage guidé par la rationalité et des gens gouvernés par leurs émotions ». Qu'est-ce que ça veut dire que, selon vous, à partir du moment où on intègre les citoyens de manière dans des débats publics, le débat, de toute manière, est déjà biaisé à la base ?
Non, là, cette phrase, c'est en fait une citation. C'est-à-dire c'est les personnes qui avaient conduit et organisé le débat public sur Notre-Dame-des-Landes en 2002-2003 qui avaient dit dans leur conclusion « Les promoteurs du projet sont conduits par la rationalité alors que les opposants sont conduits par les émotions. »
Oui, mais je crois qu'on comprenait bien que ce n'était pas forcément voilà, c'était
oui,
pas ce que vous
dites. Oui, mais c'était les termes
hein,
mêmes. Voilà. Non, ouais. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, au contraire, je soulignais ça pour être surpris. C'est-à-dire que les promoteurs les organisateurs du débat avaient déjà un point de vue sur les différents participants. Au contraire, je pense que il y a des procédures de débat public qui existent, dont on va dire un mot. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'a expliqué le président de cette association Sens et Démocratie, que les citoyens peuvent comprendre l'intérêt général. Et ces procédures qui existent, c'est par exemple les conférences des citoyens qui ont été lancées il y a une ou deux décennies, un petit peu plus d'ailleurs, trois décennies au Danemark, et qui consistent à prendre un échantillon d'une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes représentatives de la population. Sur la base du volontariat, après on leur propose, elles suivent une sorte de formation de différents spécialistes qui essayent d'être le plus neutre possible et qui donnent le béaba, par exemple sur la radioactivité naturelle ou sur la transgenèse ou sur l'écosystème, etc. Et puis après, il y a une conférence de citoyens qui peut prendre différentes formes, qui est une sorte de jury où les différents experts et promoteurs de telle ou telle thèse viennent. Et après, au terme de ce processus, les citoyens, ce collège de citoyens, rédige un avis. Et ce qui est très frappant, c'est que toutes les expériences moi, que j'ai en tête et que j'ai pu voir, l'avis est très sensé. Par exemple, dans le cas des OGM, il y avait une conférence des citoyens qui avait été organisée en 1998 à propos de la culture d'un maïs OGM qui contenait un gène de résistance BT aux pesticides. Et en gros, je passe les détails, ça sera un petit peu long, mais la conférence des citoyens avait produit une conclusion extrêmement raisonnable et qui, je pense, si elle avait été suivie, aurait évité bien des tracas et des bagarres.
Sauf parce qu'on arrive à des positions qui sont, quoi, qui sont consensuelles.
Parce que l'intérêt général existe et les personnes, quand elles sont en situation de réfléchir honnêtement, en étant bien informées sur un sujet, peuvent produire un avis commun général, avec une condition aussi, et ça c'est par rapport à l'enquête publique, c'est intéressant, c'est que le choix n'est pas prédéterminé. Alors que dans beaucoup d'enquêtes publiques, le choix est prédéterminé. Là, dans le cadre de ces conférences de citoyens, il y en a une autre qui s'est passée récemment sur les déchets nucléaires qui était très intéressante autour du projet de Bure. Il y a eu aussi un avis extrêmement pertinent.
Jean de Kervazio, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui,
quand les citoyens sont bien informés, ils peuvent bien comprendre l'intérêt général. Et donc, est-ce que ça justifie que derrière, les politiques prennent leurs décisions en fonction de cet intérêt général bien compris par les citoyens?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Hervé Kempf. Ça vous surprendra peut-être, mais j'étais, je crois, un des premiers à organiser en matière de médicaments les conférences de consensus. Et qui, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un procès avec des avocats, des experts, et un jury de gens qui ne sont pas spécialistes de la question. Mais vous voyez bien que ce mécanisme-là n'a pas été monté en France et que quand on a essayé d'avoir des conférences publiques sur les nanotechnologies, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et moi, j'ai refusé d'être à la commission sur les biotechnologies parce que dans la commission, il y a 24 personnes, il y en a 14 qui sont opposées aux OGM. Donc, ce n'est pas la peine que j'aille passer mon temps toutes les semaines pour aller débattre de choses et de conclusions que l'on connaît. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas de savoir si, bien entendu, les citoyens n'ont pas des choses à dire sur la technique. La technique fait notre monde, donc c'est essentiel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe. Aujourd'hui, on nous dit que les OGM sont mauvaises en ne sachant pas le plus souvent ce que c'est. On nous fait croire que le diesel tue en France 42 000 personnes, alors que ce n'est pas possible. La première cause de mortalité en France, c'est le cancer du poumon, c'est 27 000 et c'est le tabac, ce n'est pas le diesel. Donc, si vous voulez, on peut continuer comme ça. Donc, tout ça.
Donc, quand, par exemple, aujourd'hui, une majorité, alors quand il y a des sondages consacrés, par exemple, aux OGM, il y a une majorité de personnes interrogées qui régulièrement sont assez largement contre les OGM. Ça, non. Ça n'est pas le fruit d'une position raisonnable.
Non, parce que l'opinion a été manipulée. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que comme on a des sophistes, c'est-à-dire que le sophiste, c'est quelqu'un qui veut vous convaincre et qui se moque de la vérité. Donc, il se trouve que dans le cas des OGM, on a à coller des rats qui avaient des cancers.
Bah, c'est la fameuse affaire Serralini.
On a accolé Monsanto et on n'a pas expliqué que nous sommes tous des OGM, vous et moi et tous les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que nous ne sommes, quand nous avons été conçus, il y a eu des mutations inconnues. Et que c'est ça qui permet l'évolution d'ailleurs. Et que quand on va au soleil, on a des cellules qui mutent et que les techniques d'OGM sont des techniques tout à fait banales et beaucoup plus précises et beaucoup moins dangereuses que les techniques classiques de sélection.
Mais peut-être que cette opposition aux OGM, seulement sur des critères scientifiques, c'est peut-être aussi des choix de société. Une agriculture à base d'OGM, c'est aussi une façon de faire de l'agriculture qui ne recueille peut-être pas l'assentiment d'une partie de la population. Donc l'opposition, elle peut aussi avoir lieu là-dessus et pas seulement sur une mauvaise connaissance.
Ça nous ramène au débat de tout à l'heure, vous avez raison, mais il se trouve que dans ce cas précis, on sait que, si vous voulez, si nous sommes urbains, si beaucoup de gens qui nous écoutent ne sont pas en train de traire les vaches en ce moment, même s'il y en a probablement, c'est que du fait de la productivité de l'agriculture. Donc moi, quand je suis né en 44, il y avait 40% de la population active qui était agricultrice, aujourd'hui c'est 3%, et cette productivité de l'agriculture qui nous a libérés des contraintes de l'agriculture, elle est due notamment à la génétique. Bon. Et que, d'ailleurs je signale que un des arguments utilisés, mais les pauvres paysans, ils doivent de toute façon acheter des graines à Monsanto ou à d'autres. Alors ça pose des problèmes dont on parlera éventuellement, mais je signalerai aux gens qui ne le savent pas que 95% du maïs cultivé dans le monde est hybride et que de toute façon on achète les graines. Donc si vous voulez, il ne faut pas tout confondre. On peut parler sagement de l'agriculture et de Monsanto et de la domination de certaines industries si on ne confond pas tout, si on ne confond pas la génétique avec la politique industrielle.
Hervé Kempf.
Oui, c'est... Il faut être près des faits quand même. Par exemple, on ne peut pas dire que nous sommes tous des OGM. Et le mécanisme de la transgenèse n'est pas tout à fait banal. Là, vous faites une ellipse qui consiste à comparer un processus évolutif qui se produit sur les organismes, y compris les organismes humains, sur des milliers, voire des millions d'années, et la transgenèse qui est de transférer très rapidement un gène d'une espèce dans un gène d'une autre espèce. Donc non, on ne peut pas dire que nous sommes tous des OGM, en tout cas pas sans précaution, et ça n'est pas un mécanisme tout à fait banal. Et heureusement que les citoyens, sans avoir été manipulés, mais ont très bien compris que ce genre de phrase, parce qu'il y a eu dans l'histoire des OGM beaucoup, notamment la campagne de publicité et de communication de Monsanto et des autres à la fin des années 90, c'était tout à fait là de la manipulation. Les citoyens ont compris ça. Mais le deuxième point qui est très important, c'est que la science, c'est pas seulement la science. La science ne peut pas être, et particulièrement maintenant et depuis quelques décennies, séparée de son contexte social, séparée de ses intérêts économiques, séparée des jeux extrêmement importants qui vont se produire derrière telle ou telle entreprise. Et ou tel jeu d'intérêts indépendamment, même de la conception de la société. On voit bien que c'est ça qui est en cause. Et ça aussi, j'allais dire, les citoyens le ressentent et le voient très bien. Et je vais juste donner un exemple par rapport à cette étude Serralini qui est extrêmement importante parce qu'elle a frappé l'opinion il y a un an et demi maintenant, c'est quand même que M. Serralini posait une vraie question et il la posait, j'allais dire presque avec les moyens du bord, même si son étude était sérieuse et sérieusement
menée. Et financée
menée,
par
et sérieusement menée.
Non, ça n'est pas vrai.
Mais
elle n'était pas sérieuse.
Laissez-moi la finir. Tant et si bien, son étude est non concluante, comme un grand nombre de personnes en ont convenu, mais simplement il y a quelques mois, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour faire une recherche publique sur la même question, à savoir comment évoluent des animaux qui seraient nourris durablement avec des OGM. Et il y a des chercheurs de l'INRA, de l'INSERM qui vont s'associer, c'est sous la direction du professeur Bernard Salles. Donc c'est une question où on va pouvoir avancer, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la recherche publique qui va enfin chercher à répondre à cette question.
Alors, la recherche
20
sur les
ans
OGM,
qu'on aura pu le faire.
La recherche sur les OGM, elle existe quand même.
Très peu. Et c'est ça qui est
frère et journaliste à Mediapart qui s'appelle Michel de Pracontal qui signe un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant qui s'appelle récemment OGM, le débat sans fin, et il évoque 30 000 études sur le sujet et il pose la question, est-ce qu'on va finir un jour d'évaluer les OGM parce qu'on a l'impression
qu'il y a un milliard d'êtres humains qui en mangent.
Comment Michel de Pracontal a trouvé ce chiffre tout à fait extraordinaire. Laissez-moi finir juste cette phrase parce que le point est important. Donc il va enfin y avoir sur cette question une recherche publique en France qui va se pencher dessus. Et une difficulté qu'ont les chercheurs, c'est qu'il leur faut du matériel. Il leur faut le maïs transgénique qu'on va donner à ces rats avec d'autres maïs. Et le problème, c'est qu'il faut que Monsanto le donne. Or, apparemment, pour l'instant, l'acquisition de maïs dont Monsanto est propriétaire, Monsanto ne veut pas le donner. Pourquoi ? Parce que Monsanto fait des recherches privées et les nombreuses études qui ont été citées par mon collègue sont très majoritairement des études qui sont menées par des entreprises privées et pas par de la recherche publique. Donc voilà en quoi la science... Effectivement, elle existe, mais il faut toujours voir comment elle est faite, par qui, selon quels intérêts.
Jean de Carvazouet, est-ce qu'il aurait fallu qu'on se retrouve dans une situation où la recherche publique ne soit pas soumise au bon vouloir de Monsanto, mais qu'on puisse utiliser des maïs OGM qui seraient, par exemple, produits en France ? Est-ce que aussi la décision politique n'a pas été la bonne ?
Non, mais si vous voulez, Hervé Kemps décrit parfaitement le mécanisme et la machine à faire peur. On fait peur. Avec une étude critiquée par le monde entier, sans base biologique, parce que on ne voit pas quelle serait la base biologique, sans référence. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui mangent des OGM aujourd'hui, il y a 170 millions d'hectares, et tous les animaux, y compris les cochons bretons, hollandais, etc., mangent des OGM. Alors, on fait peur, sans base biologique. Comme on a fait peur, on fait faire des études, et comme l'État décide de faire des études, on dit on avait raison de faire peur parce que l'État fait des études. Alors c'est pareil, si vous voulez, pour les ondes radio, c'est exactement pareil. Il y a l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il y a 25 000 études sur les ondes radio, qui dit toute la même chose. On peut en faire 26 000, 27 000, ça dira encore la même chose parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de base biologique.
Il y a une loi d'ailleurs fin janvier qui est assez prudente hein, sur les ondes électromagnétiques. On peut pas dire que ça arrive très très loin.
Elle est surtout ridicule. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est scientifiquement tranché. Si vous voulez, alors Madame Kosciusko-Morizet, qui est la mère des principes de précaution, m'avait fait sourire parce que comme elle a quand même des notions de physique, elle a fait l'école polytechnique, elle disait que le principe de précaution s'appliquait moins aux antennes relais qu'aux téléphones portables. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'un principe, ça s'applique ou ça ne s'applique pas. De précaution d'ailleurs.
Oui, écoutez, moi je suis désolé, monsieur Carvazouet, c'est à moi que vous parlez. Donc je n'ai pas cherché, me semble-t-il, dans cette discussion à faire peur à qui que ce soit, que ce soit par rapport aux OGM. Oui, mais répondez à ce qu'on dit, parce que si on part maintenant dans les ondes électromagnétiques, là encore, je suis désolé, la question de la téléphonie et des effets des ondes électromagnétiques n'est pas tranchée. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux, mais elle n'est pas tranchée, et on pourrait citer plein d'autres études. Je crois qu'il faut. On a du mal à sortir d'un côté, je dirais pas d'un côté comme de l'autre, mais de ce genre de discussion où si on introduit des éléments et des questions comme je crois l'avoir fait, en face, parce qu'effectivement je pense, d'ailleurs pas... Enfin, en face, on dit, vous voulez faire peur, vous êtes manipulé, les citoyens ne comprennent rien, etc. Non,
je peux dire ça.
Un petit peu quand même, moi, c'est l'impression que je ressens.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de conservatisme du côté de la communauté scientifique ? C'est-à-dire que, communauté scientifique qui connaît la controverse, puisque de manière, la science n'avance qu'à travers des controverses, mais n'a pas forcément envie que ce soit les citoyens qui s'en emparent.
Non,
pas
du tout. Ça, c'est une question, mais les controverses scientifiques évoluent, par exemple, récemment, il y a eu, et c'est ce que nous avons révélé sur Reporter, parce que les scientifiques nous en avaient avertis, plus de 100 scientifiques de l'INRA, du CNRS, d'autres instituts de recherche, qui ont signé une lettre collective très argumentée adressée au président de l'INRA pour dire que le rapport qu'avait produit cet institut sur l'agriculture biologique en octobre dernier, n'était pas fondé scientifiquement. Ce n'était pas des écologistes ou des agriculteurs biologistes qui l'avaient fait, c'était des scientifiques.
On va être d'accord, les controverses scientifiques existent, et comme le disait très joliment un grand philosophe du XXe siècle, Popper, les scientifiques font mourir leurs hypothèses à leur place. Mais vous voyez bien que vous nous placez, et vous avec d'autres, dans la situation de ce qu'on appelait au Moyen-Âge la preuve diabolique. C'est-à-dire, on ne peut jamais démontrer que, par exemple, si je dis les lunettes sont dangereuses pour la santé, les antennes relais sont dangereuses pour la santé, on ne pourra jamais démontrer que c'est faux. Parce qu'on dira, on testera l'hypothèse que ça ne vous fait pas de cancer à la racine du nez, puis après on dira ça rend sourd, ça rend aveugle, etc. Et donc, vous voyez, on est lancé dans un processus très très coûteux. La France a des graves problèmes et je pense que cette confusion des ordres nous conduit vraiment à du chômage et à une baisse de compétitivité de ce pays.
Et cette métaphore des lunettes, on peut la retrouver dans votre livre, Jean de Carvazouet. Ils ont perdu la raison, que vous publiez chez Robert. Robert Laffont, Hervé Kempf, Notre-Dame des Landes, c'est publié au Seuil. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, à ce débat. Bah, c'est toujours bien de toute manière quand il y a du débat. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos réactions, vos témoignages sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, une émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours et télécharger pendant un an. Demain, nous poserons la question suivante. L'Algérie veut-elle sortir de sa léthargie? Vous savez qu'il y aura bientôt une présidentielle en Algérie avec un candidat pas vraiment surprise, Abdelaziz Bouteflika.